Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu, cinquième partie, dialogue 9, 10 et 11.
Vous en étiez au lendemain d'une constitution faite par vous sans l'assentiment de la nation.
Ah, si je vous arrête, je n'ai jamais prétendu froisser à ce point des idées reçues dont je connais l'empire.
Vraiment ?
Je parle très sérieusement.
Vous comptez donc associer la nation aux nouvelles œuvres fondamentales que vous préparez ?
Oui, sans doute. Cela vous étonne. Je ferai bien mieux. Je ferai d'abord ratifier par le vote populaire le coup de force que j'ai accompli contre l'État. Je dirai au peuple dans les termes qui conviendront. Tout marchait mal, j'ai tout brisé, je vous ai sauvé, voulez-vous de moi ? Vous êtes libre de me condamner ou de m'absoudre par votre vote.
Libre sous le poids de la terreur et de la force armée.
On m'acclamera.
Je le crois.
Et le vote populaire dont j'ai fait l'instrument de mon pouvoir devient dans la base même de mon gouvernement. J'établirai un suffrage sans distinction de classe ni de sens, avec lequel l'absolutisme sera organisé d'un seul coup.
Oui, car d'un seul coup, vous brisez en même temps l'unité de la famille. Vous dépréciez le suffrage. Vous annulez la prépondérance des Lumières et vous faites du nombre une puissance aveugle qui se dirige à votre gré.
Je réalise un progrès auquel aspirent ardemment aujourd'hui tous les peuples de l'Europe. J'organise le suffrage universel comme Washington aux États-Unis et le premier usage que j'en fais est de lui soumettre ma constitution.
Quoi ? Vous allez la faire discuter dans des assemblées primaires ou secondaires ?
Oh, laissons là, je vous prie, vos idées du XVIIIe siècle. Elles ne sont déjà plus du temps présent.
Eh bien, de quelle manière alors ferez-vous délibérer sur l'acceptation de votre constitution ? Comment les articles organiques en seront-ils discutés ?
Mais je n'entends pas qu'ils soient discutés du tout, je croyais vous l'avoir dit.
Je n'ai fait que vous suivre sur le terrain des principes qu'il vous a plu de choisir. Vous m'avez parlé des États-Unis d'Amérique. Je ne sais pas si vous êtes un nouveau Washington, mais ce qu'il y a de certain, c'est que la constitution actuelle des États-Unis a été discutée, délibérée et votée par les représentants de la nation.
De grâce, ne confondons pas les temps, les lieux et les peuples. Nous sommes en Europe. Ma constitution est présentée en bloc. Elle est acceptée en bloc.
Mais en agissant ainsi, vous ne déguisez rien pour personne. Comment, en votant dans ces conditions, le peuple peut-il savoir ce qu'il fait et jusqu'à quel point il s'engage ?
Et où avez-vous jamais vu qu'une constitution vraiment digne de ce nom, vraiment durable, ait jamais été le résultat d'une délibération populaire ? Une constitution doit sortir toute armée de la tête d'un seul homme, ou ce n'est qu'une œuvre condamnée au néant. Sans homogénéité, sans liaison dans ses parties, sans force pratique, elle porte nécessairement l'empreinte de toutes les faiblesses de vue qui ont présidé à sa rédaction. Une constitution, encore une fois, ne peut être que l'œuvre d'un seul. Jamais les choses ne se sont passées autrement. J'en atteste l'histoire de tous les fondateurs d'empires, l'exemple des Sésostris, des Solon, des Lycurgues, des Charlemagne, des Frédéric II, des Pierre Ier.
C'est un chapitre d'un de vos disciples que vous allez me développer là.
Et de qui donc ?
De Joseph de Maistre. Il y a là des considérations générales qui ne sont pas sans vérité, mais que je trouve sans application. On dirait, à vous entendre, que vous allez tirer un peuple du chaos ou de la nuit profonde de ses premières origines. Vous ne paraissez pas vous souvenir que, dans l'hypothèse où nous nous plaçons, la nation a atteint l'apogée de sa civilisation, que son droit public est fondé, et qu'elle est en possession d'institutions régulières.
Je ne dis pas non. Aussi vous allez voir ce que je n'ai pas besoin de détruire de fond en comble vos institutions pour arriver à mon but. Il me suffira de modifier l'économie et d'en charger les combinaisons.
Expliquez-vous.
Et vous m'avez fait tout à l'heure au cours de politique constitutionnelle. Je compte le mettre à profit. Je ne suis d'ailleurs pas aussi étranger qu'on le croit généralement en Europe à toutes ces idées de bascule politique. Vous avez pu vous en apercevoir par mes discours sur Tite-Live. Mais revenons au fait. Vous remarquez avec raison, il y a un instant, que dans les États parlementaires de l'Europe, les pouvoirs publics étaient distribués à peu près partout de la même manière, entre un certain nombre de corps politiques dont le jeu régulier constituait le gouvernement. Ainsi, on retrouve partout, sous des noms divers, mais avec des attributions à peu près uniformes, une organisation ministérielle, un Sénat, un corps législatif, un Conseil d'État, une Cour de cassation. Je dois vous faire grâce de tout développement inutile sur le mécanisme respectif de ces pouvoirs, dont vous connaissez mieux que moi le secret. Il est évident que chacun d'eux répond à une fonction essentielle du gouvernement. Vous remarquerez bien que c'est la fonction que j'appelle essentielle, ce n'est pas l'institution. Ainsi, il faut qu'il y ait un pouvoir dirigeant, un pouvoir modérateur, un pouvoir législatif, un pouvoir réglementaire, cela ne fait pas de doute.
Mais si je vous comprends bien, ces divers pouvoirs n'en font qu'un à vos yeux, et vous allez donner tout cela à un seul homme en supprimant les institutions.
Encore une fois, c'est ce qui vous trompe. On ne pourrait pas agir ainsi sans danger. On ne pourrait pas chez vous, surtout, avec le fanatisme qui règne pour ce que vous appelez les principes de 89. Mais veuillez bien m'écouter. En statique, le déplacement d'un point d'appui fait changer la direction de la force. En mécanique, le déplacement d'un ressort fait changer le mouvement. En apparence, pourtant, c'est le même appareil, c'est le même mécanisme. De même encore en physiologie, le tempérament dépend de l'état des organes. Si les organes sont modifiés, le tempérament change. Eh bien, les diverses institutions dont nous venons de parler fonctionnent dans l'économie gouvernementale comme de véritables organes dans le corps humain. Je toucherai aux organes, les organes resteront. Mais la complexion politique de l'État sera changée. Concevez-vous ?
Ce n'est pas difficile, et il ne fallait point de périphrase. Vous gardez les noms, vous ôtez les choses. C'est ce qu'Auguste fit à Rome quand il détruisit la République. Il y avait toujours un consulat, une préture, une censure, un tribunat, mais il n'y avait plus ni consul, ni préteur, ni censeur, ni tribun.
Ah, vous voyez qu'on peut choisir de plus mauvais modèles. Tout se peut faire en politique, à la condition de flatter les préjugés publics et de garder du respect pour les apparences.
Ne rentrez pas dans les généralités. Vous voilà à l'œuvre, je vous suis.
N'oubliez pas à quelle conviction personnelle chacun de mes actes va prendre sa source. À mes yeux, vos gouvernements parlementaires ne sont que des écoles de disputes, que des foyers d'agitation stériles, au milieu desquels s'épuise l'activité féconde des nations, que la tribune et la presse condamnent à l'impuissance. En conséquence, je n'ai pas de remords. Je pars d'un point de vue élevé, mon but justifie mes actes. À des théories abstraites, je substitue la raison pratique, l'expérience des siècles, l'exemple des hommes de génie qui ont fait de grandes choses par les mêmes moyens. Je commence par rendre au pouvoir ses conditions vitales. Ma première réforme s'appesantit immédiatement sur votre prétendue responsabilité ministérielle. Dans les pays de centralisation comme le vôtre, par exemple, où l'opinion, par un sentiment instinctif, rapporte tout au chef de l'État, le bien comme le mal, inscrire en tête d'une charte que le souverain est irresponsable, c'est mentir au sentiment public, c'est établir une fiction qui s'évanouira toujours au bruit des révolutions. Je commence donc par rayer de ma constitution le principe de la responsabilité ministérielle. Le souverain que j'institue sera seul responsable devant le peuple.
À la bonne heure, il n'y a pas là d'ambages.
Dans votre système parlementaire, les représentants de la nation ont, comme vous me l'expliquiez, l'initiative des projets de loi seuls ou concurremment avec le pouvoir exécutif. Eh bien, c'est la source des plus graves abus. Car dans un pareil ordre de choses, chaque député peut à tout propos se substituer au gouvernement en présentant les projets de loi les moins étudiés, les moins approfondis. Que dis-je ? Avec l'initiative parlementaire, la Chambre renversera quand elle voudra le gouvernement. Je raye l'initiative parlementaire. La proposition des lois n'appartiendra qu'au souverain.
Je vois que vous entrez par la meilleure voie dans la carrière du pouvoir absolu. Car dans un État où l'initiative des lois n'appartient qu'au souverain, c'est à peu près le souverain qui est le seul législateur. Mais avant que vous n'alliez plus loin, je désirerais vous faire une objection. Vous voulez vous affermir sur le roc et je vous trouve assis sur le sable.
Comment ?
N'avez-vous pas pris le suffrage populaire pour base de votre pouvoir ?
Mais sans doute.
Eh bien, vous n'êtes qu'un mandataire révocable au gré du peuple, en qui seule réside la véritable souveraineté. Vous avez cru pouvoir faire servir ce principe au maintien de votre autorité. Vous ne vous apercevez donc pas qu'on vous renversera quand on voudra ? D'autre part, vous vous êtes déclaré seul responsable. Vous comptez donc être un ange ? Mais soyez-le si vous voulez, on ne s'en prendra pas moins à vous de tout le mal qui pourra arriver, et vous périrez à la première crise.
Vous anticipez ! L'objection vient trop tôt, mais j'y réponds de suite puisque vous m'y forcez. Vous vous trompez étrangement si vous croyez que je n'ai pas prévu l'argument. Si mon pouvoir était troublé, ce ne pourrait être que par des factions. Je suis gardé contre elles par deux droits essentiels que j'ai mis dans ma constitution.
Quels sont donc ces droits ?
L'appel au peuple, le droit de mettre le pays en état de siège. Je suis chef d'armée et j'ai toute la force publique entre les mains. À la première insurrection contre mon pouvoir, les baïonnettes me feraient raison de la résistance, et je retrouverais dans l'urne populaire une nouvelle consécration de mon autorité.
Vous avez des arguments sans réplique. Mais revenons, je vous prie, au corps législatif que vous avez installé. Sur ce point, je ne vous vois pas hors d'embarras. Vous avez privé cette assemblée de l'initiative parlementaire. Mais il lui reste le droit de voter les lois que vous présenterez à son adoption. Vous ne comptez sans doute pas le lui laisser exercer ?
Vous êtes plus ombrageux que moi, car je vous avoue que je ne vois à cela aucun inconvénient. Nul autre que moi-même ne pouvant présenter la loi, je n'ai pas à craindre qu'il s'en fasse aucune contre mon pouvoir. J'ai la clé du tabernacle. Ainsi que je vous l'ai dit d'ailleurs, il entre dans mes plans de laisser subsister en apparence les institutions. Seulement, je dois vous déclarer que je n'entends pas laisser à la Chambre ce que vous appelez le droit d'amendement. Il est évident qu'avec l'exercice d'une telle faculté, il n'est pas de loi qui ne pourrait être déviée de son but primitif et dont l'économie ne fût susceptible d'être changée. La loi est acceptée ou rejetée, il n'y a pas d'autre alternative.
Mais il n'en faudra pas davantage pour vous renverser. Il suffirait pour cela que l'Assemblée législative repoussât systématiquement tous vos projets de loi ou seulement qu'elle refusât de voter l'impôt.
Vous savez parfaitement que les choses ne peuvent pas se passer ainsi. Une chambre, quelle qu'elle soit, qui entraverait par un tel acte de témérité le mouvement des affaires publiques, se suiciderait elle-même. J'aurais mis le moyen d'ailleurs de neutraliser le pouvoir d'une telle assemblée. Je réduirais de moitié le nombre de représentants, et j'aurai par suite moitié moins de passions politiques à combattre. Je me réserverai la nomination des présidents et des vice-présidents qui dirigent les délibérations. Au lieu de sessions permanentes, je réduirai à quelques mois la tenue de l'Assemblée. Je ferai surtout une chose qui est d'une très grande importance et dont la pratique commence déjà à s'introduire, m'a-t-on dit. J'abolirai la gratuité du mandat législatif. Je voudrais que les députés reçussent un émolument, que leurs fonctions fussent en quelque sorte salariées. Je regarde cette innovation comme le moyen le plus sûr de rattacher au pouvoir les représentants de la nation. Je n'ai pas besoin de vous développer cela, l'efficacité du moyen se comprend assez. Et j'ajoute que, comme chef du pouvoir exécutif, j'ai le droit de convoquer, de dissoudre le corps législatif, et qu'en cas de dissolution, je me réserverai les plus longs délais pour convoquer une nouvelle représentation. Je comprends parfaitement que l'Assemblée législative ne pourrait sans danger rester indépendante de mon pouvoir, mais rassurez-vous, nous rencontrerons bientôt d'autres moyens pratiques de l'y rattacher. Ces détails constitutionnels vous suffisent-ils ? En voulez-vous davantage ?
Cela n'est nullement nécessaire, et vous pouvez passer maintenant à l'organisation du Sénat.
Je vois que vous avez très bien compris que c'était là la partie capitale de mon œuvre, la clé de voûte de ma constitution.
Je ne sais vraiment ce que vous pouvez faire encore, car, dès à présent, je vous regarde comme complètement maître de l'État.
Cela vous plaît à dire, mais en réalité, la souveraineté ne pourrait s'établir sur des bases aussi superficielles. À côté du souverain, il faut des corps imposants par l'éclat des titres, des dignités, et par l'illustration personnelle de ceux qu'il compose. Il n'est pas bon que la personne du souverain soit constamment en jeu, que sa main s'aperçoive toujours. Il faut que son action puisse, au besoin, se couvrir sous l'autorité des grandes magistratures qui environnent le trône.
Il est aisé de voir que c'est à ce rôle que vous destinez le Sénat et le Conseil d'État.
On ne peut rien vous cacher.
Vous parlez du trône ? Je vois que vous êtes roi, et nous étions tout à l'heure en République. La transition n'est guère ménagée.
L'illustre publiciste français ne peut pas me demander de m'arrêter à de semblables détails d'exécution. Du moment que j'ai toute la puissance en main, l'heure où je me ferai proclamer roi n'est plus qu'une affaire d'opportunité. Je le serai avant ou après avoir promulgué ma constitution, peu importe.
C'est vrai. Revenons à l'organisation du Sénat.
Dans les hautes études que vous avez dû faire pour la composition de votre mémorable ouvrage sur les causes de la grandeur et de la décadence des Romains, il n'est pas que vous n'ayez remarqué le rôle que jouait le Sénat auprès des empereurs à partir du règne d'Auguste.
C'est là, si vous me permettez de vous le dire, un point que les recherches historiques me paraissent pas avoir encore complètement éclairci. Ce qu'il y a de certain, c'est que jusqu'au dernier temps de la République, le Sénat romain avait été une institution autonome, investie d'immenses privilèges, ayant des pouvoirs propres. Ce fut là le secret de sa puissance, de la profondeur de ses traditions politiques et de la grandeur qu'il imprima à la République. À partir d'Auguste, le Sénat n'est plus qu'un instrument dans la main des empereurs, mais on ne voit pas bien par quelle succession d'actes ils parvinrent à le dépouiller de sa puissance.
Bon, ce n'est pas précisément pour élucider ce point d'histoire que je vous prie de vous reporter à cette période de l'Empire. Cette question, pour le moment, ne me préoccupe pas. Tout ce que je voulais vous dire, c'est que le Sénat, que je conçois, devrait remplir, à côté du prince, un rôle politique analogue à celui du Sénat romain dans les temps qui ont suivi la chute de la République.
Eh bien, mais à cette époque, la loi n'était plus votée dans les comices populaires. Elle se faisait à coups de senatus consultes. Est-ce cela que vous voulez ?
Non pas. Cela ne serait point conforme aux principes modernes du droit constitutionnel.
Quel remerciement ne vous doit-on pas pour un semblable scrupule ?
Oh, je n'ai d'ailleurs pas besoin de cela pour édicter ce qui me paraît nécessaire. Nulle disposition législative, vous le savez, ne peut émaner que de ma proposition, et je fais d'ailleurs des décrets qui ont force de loi.
Il est vrai, vous aviez oublié ce point, qui n'est cependant pas mince. Mais alors, je ne vois pas à quelle fin vous réservez le Sénat.
Placé dans les plus hautes sphères constitutionnelles, son intervention directe ne doit apparaître que dans des circonstances solennelles. S'il était nécessaire, par exemple, de toucher au pacte fondamental ou que la souveraineté fût mise en péril.
Ce langage est encore très divinatoire. Vous aimez à préparer vos effets.
L'idée fixe de vos modernes constituants a été jusqu'à présent de vouloir tout prévoir, tout régler dans les chartes qu'ils donnent au peuple. Je ne tomberai pas dans une telle faute. Je ne voudrais pas m'enfermer dans un cercle infranchissable. Je ne fixerai que ce qu'il est impossible de laisser incertain. Je laisserai au changement une assez large voie pour qu'il y ait, dans les grandes crises, d'autres moyens de salut que l'expédient désastreux des révolutions.
Vous parlez en sage.
Et en ce qui concerne le Sénat, j'inscrirai ma constitution. Que le Sénat règle par un senatus consulte tout ce qui n'a pas été prévu par la constitution et qui est nécessaire à sa marche. Qu'il fixe le sens des articles de la constitution qui donnerait lieu à différentes interprétations. Qu'il maintient ou annule tous les actes qui lui sont déférés comme inconstitutionnels par le gouvernement ou dénoncé par les pétitions des citoyens, qu'il peut poser les bases de projets de loi d'un grand intérêt national, et qu'il peut proposer des modifications à la Constitution, et qu'il y sera statué par un senatus consulte.
Tout cela est fort beau, et c'est véritablement là un Sénat romain. Je fais seulement quelques remarques sur votre Constitution. Elle sera donc rédigée dans des termes bien vagues et bien ambigus pour que vous jugiez à l'avance ce que les articles qu'elle renferme pourront être susceptibles de différentes interprétations.
Non, mais il faut tout prévoir.
Je croyais que, au contraire, votre principe, en pareille matière, était d'éviter de tout prévoir et de tout régler.
L'illustre président n'a pas hanté sans profit le palais de Thémis, ni porté inutilement le bonnet à mortier. Mes paroles n'ont pas eu d'autre portée que celle-ci. Il faut prévoir ce qui est essentiel.
Dites-moi, je vous prie, votre Sénat, interprète et gardien du pacte fondamental, a-t-il donc un pouvoir propre ?
Indubitablement, non.
Tout ce que fera le Sénat, ce sera donc vous qui le ferez.
Je ne vous dis pas le contraire.
Ce qu'il interprétera, ce sera donc vous qui l'interpréterez. Ce qu'il modifiera, ce sera vous qui le modifierez. Ce qu'il annulera, ce sera vous qui l'annulerez.
Je ne prétends pas m'en défendre.
C'est donc à dire que vous réservez le droit de défaire ce que vous avez fait, d'ôter ce que vous avez donné, de changer votre constitution, soit en bien, soit en mal, ou même de la faire disparaître complètement si vous le jugez nécessaire. Je ne préjuge rien de vos intentions ni des mobiles qui pourraient vous faire agir dans telle ou telle circonstance donnée. Je vous demande seulement où se trouverait la plus faible garantie pour les citoyens au milieu d'un si vaste arbitraire, et comment, surtout, ils pourraient jamais se résoudre à le subir.
Je m'aperçois que la sensibilité philosophique vous revient. Rassurez-vous, je n'apporterai aucune modification aux bases fondamentales de ma Constitution, sans soumettre ces modifications à l'acceptation du peuple par la voie du suffrage universel.
Mais ce serait encore vous qui seriez juge de la question, de savoir si la modification que vous projetez porte en elle le caractère fondamental qui doit la soumettre à la sanction du peuple. Je veux admettre toutefois que vous ne ferez pas par un décret ou par un senatus consulte ce qui doit être fait par un plébiscite. Livrerez-vous à la discussion vos amendements constitutionnels? Les ferez-vous délibérer dans des comices populaires?
Incontestablement non. Si jamais le débat sur des articles constitutionnels se trouvait engagé devant des assemblées populaires, rien ne pourrait empêcher le peuple de se saisir de l'examen de tout en vertu de son droit d'évocation. Et le lendemain, ce serait la révolution dans la rue.
Vous êtes logique, du moins. Alors, les amendements constitutionnels sont présentés en bloc, acceptés en bloc.
Pas autrement, en effet.
Eh bien, je crois que nous pouvons passer à l'organisation du Conseil d'État.
Vous dirigez vraiment les débats avec la précision consommée d'un président de cour souveraine. J'ai oublié de vous dire que j'appointerai le Sénat comme j'ai appointé le corps législatif.
C'est entendu.
Je n'ai pas besoin d'ajouter d'ailleurs que je me réserverai également la nomination des présidents et des vice-présidents de cette haute assemblée. En ce qui touche le Conseil d'État, je serai plus bref. Vos institutions modernes sont des instruments de centralisation si puissants qu'il est presque impossible de s'en servir sans exercer l'autorité souveraine. Qu'est-ce en effet, d'après vos propres principes, que le Conseil d'État? C'est un simulacre de corps politique destiné à faire passer entre les mains du prince un pouvoir considérable, le pouvoir réglementaire qui est une sorte de pouvoir discrétionnaire qui peut servir, quand on veut, à faire de véritables lois. Le Conseil d'État est de plus investi chez vous, m'a-t-on dit, d'une attribution spéciale peut-être plus exorbitante encore. En matière contentieuse, il peut, m'assure-t-on, revendiquer par droit d'évocation, ressaisir de sa propre autorité, devant les tribunaux ordinaires, la connaissance de tous les litiges qui lui paraissent avoir un caractère administratif. Ainsi, et pour caractériser en un mot ce qu'il y a de tout à fait exceptionnel dans cette dernière attribution, les tribunaux doivent refuser de juger quand ils se trouvent en présence d'un acte de l'autorité administrative. Et l'autorité administrative peut, dans le même cas, dessaisir les tribunaux pour s'en référer à la décision du Conseil d'État. Or, encore une fois, qu'est-ce que le Conseil d'État? A-t-il un pouvoir propre? Est-il indépendant du souverain? Pas du tout. Ce n'est qu'un comité de rédaction. Quand le Conseil d'État fait un règlement, c'est le souverain qui le fait. Et quand il rend un jugement, c'est le souverain qui le rend. Ou comme vous dites aujourd'hui, c'est l'administration. L'administration juge et partie dans sa propre cause. Connaissez-vous quelque chose de plus fort que cela? Et croyez-vous qu'il y ait beaucoup à faire pour fonder le pouvoir absolu dans des États où l'on trouve tout organisé de par les institutions?
Votre critique tombe assez juste, j'en conviens. Mais comme le Conseil d'État est une institution excellente en soi, rien n'est plus facile que de lui donner l'indépendance nécessaire en l'isolant, dans une certaine mesure, du pouvoir. Ce n'est pas ce que vous ferez, sans doute.
En effet, je maintiendrai le type de l'unité dans l'institution là où je le trouverai. Je le ramènerai là où il n'est pas, en resserrant les liens d'une solidarité que je regarde comme indispensable. Nous ne sommes pas restés en chemin, vous le voyez, car voilà ma constitution faite.
Déjà.
Un petit nombre de combinaisons savamment ordonnées suffit pour changer complètement la marche des pouvoirs. Cette partie de mon programme est remplie.
Je croyais que vous aviez encore à me parler de la Cour de cassation.
Oh, ce que j'ai à vous en dire trouvera mieux sa place ailleurs.
Il est vrai que si nous évaluons la somme des pouvoirs qui sont entre vos mains, vous devez commencer à être satisfait. Récapitulons. Vous faites la loi, premièrement, sous la forme de propositions au corps législatif. Vous la faites, deuxièmement, sous forme de décret. Troisièmement, sous forme de senatus consulte. Quatrièmement, sous forme de règlements généraux. Cinquièmement, sous forme d'arrêtés au Conseil d'État. Sixièmement, sous forme de règlements ministériels. Septièmement, enfin, sous forme de coup d'État.
Oh, vous ne paraissez pas soupçonner que ce qui me reste à accomplir est précisément le plus difficile.
En effet, je ne m'en doutais pas.
Vous n'avez pas assez remarqué, alors, que ma constitution était muette sur une foule de droits acquis qui seraient incompatibles avec le nouvel ordre de choses que je viens d'établir. Il en est ainsi, par exemple, de la liberté de la presse, du droit d'association, de l'indépendance de la magistrature, du droit de suffrage, de l'élection par les communes de leurs officiers principaux, de l'institution des gardes civiques et de beaucoup d'autres choses encore qui devront disparaître ou être profondément modifiées.
Mais n'avez-vous pas reconnu implicitement tous ces droits, puisque vous avez reconnu solennellement les principes dont ils ne sont que l'application?
Je vous l'ai dit, je n'ai reconnu aucun principe ni aucun droit en particulier. Au surplus, les mesures que je vais prendre ne sont que des exceptions à la règle.
Et des exceptions qui la confirment, c'est juste.
Mais pour cela, je dois bien choisir mon moment, car une erreur d'opportunité peut tout perdre. J'ai écrit dans le traité du prince une maxime qui doit servir de règle de conduite en pareil cas. Il faut que l'usurpateur d'un État y commette une seule fois toutes les rigueurs que sa sûreté nécessite pour n'avoir plus à y revenir. Car plus tard il ne pourra plus varier avec ses sujets ni en bien ni en mal. Si c'est en mal que vous avez à agir, vous n'êtes plus à temps du moment où la fortune vous est contraire. Et si c'est en bien, vos sujets ne vous en seront aucun gré d'un changement qu'ils jugeront d'être forcé. Et au lendemain même de la promulgation de ma constitution, je rendrai une succession de décrets ayant force de loi qui supprimeront d'un seul coup les libertés et les droits dont l'exercice serait dangereux.
Le moment est bien choisi, en effet. Le pays est encore sous la terreur de votre coup d'État. Pour votre constitution, on ne vous a rien refusé, puisque vous pouviez tout prendre. Pour vos décrets, on n'a rien à vous permettre, puisque vous ne demandez rien et que vous prenez tout.
Oh, vous avez le mot vif.
Un peu moins cependant que vous n'avez l'action. Convenez-en. Malgré votre vigueur de main et votre coup d'œil, je vous avoue que j'ai à peine à croire que le pays ne se soulèvera pas en présence de ce second coup d'État tenu en réserve derrière la coulisse.
Le pays fermera volontairement les yeux, car dans l'hypothèse où je me suis placé, il est las d'agitation, il aspire au repos, comme le sable du désert après l'ondée qui suit la tempête.
Vous faites avec cela de belles figures de rhétorique. C'est trop.
Je m'empresse d'ailleurs de vous dire que les libertés que je supprime, je promettrai solennellement de les rendre après l'apaisement des partis.
Je crois qu'on attendra toujours.
Oh, c'est possible.
C'est certain, car vos maximes permettent au prince de ne pas tenir sa parole quand il y trouve son intérêt.
Ne vous hâtez pas de prononcer. Vous verrez l'usage que je saurai faire de cette promesse. Je me charge bientôt de passer pour l'homme le plus libéral de mon royaume.
Voilà un étonnement auquel je ne suis pas préparé. En attendant, vous supprimez directement toutes les libertés.
Directement n'est pas le mot d'un homme d'État. Je ne supprime rien directement. C'est ici que la peau du renard doit se coudre à la peau du lion. À quoi servirait la politique si l'on ne pouvait gagner par des voies obliques le but qui ne peut s'atteindre par la ligne droite? Les bases de mon établissement sont posées, les forces sont prêtes, il n'y a plus qu'à les mettre en mouvement. Je le ferai avec tous les ménagements que comportent les nouvelles mœurs constitutionnelles. C'est ici que doivent se placer naturellement les artifices de gouvernement et de législation que la prudence recommande au prince.
Je vois que nous entrons dans une nouvelle phase. Je me dispose à vous écouter.
Vous remarquez avec beaucoup de raison dans l'esprit des lois que le mot de liberté est un mot auquel on attache des sens fort divers. On lit dans votre ouvrage la proposition que voici. La liberté est le droit de faire ce que les lois permettent. M'accommode très bien cette définition, que je trouve juste, et je puis vous assurer que mes lois ne permettront que ce qu'il faudra. Vous allez voir quel en est l'esprit. Par quoi vous plaît-il que nous commencions ?
Je ne serais pas fâché de voir d'abord comment vous vous mettrez en défense vis-à-vis de la presse.
Ah, vous mettez le doigt en effet sur la partie la plus délicate de ma tâche. Le système que je conçois à cet égard est aussi vaste que multiplié dans ses applications. Heureusement, ici j'ai mes coudées franches. Je puis tailler et trancher en pleine sécurité et presque sans soulever aucune récrimination.
Pourquoi donc, s'il vous plaît ?
Parce que, dans la plupart des pays parlementaires, la presse a le talent de se rendre haïssable parce qu'elle n'est jamais au service que de passions violentes, égoïstes, exclusives, parce qu'elle dénigre de parti pris, parce qu'elle est vénale, parce qu'elle est injuste, parce qu'elle est sans générosité, sans patriotisme, enfin et surtout parce que vous ne ferez jamais comprendre à la grande masse d'un pays à quoi elle peut servir.
Oh, si vous cherchez des griefs contre la presse, il vous sera facile d'en accumuler. Si vous demandez à quoi elle peut servir, c'est autre chose. Elle empêche tout simplement l'arbitraire dans l'exercice du pouvoir. Elle force à gouverner constitutionnellement. Elle contraint à l'honnêteté, à la pudeur, au respect d'eux-mêmes et d'autrui, les dépositaires de l'autorité publique. Enfin, pour tout dire en un mot, elle donne à quiconque est opprimé le moyen de se plaindre et d'être entendu. On peut pardonner beaucoup à une institution qui, à travers tant d'abus, rend nécessairement tant de services.
Oui, je connais ce plaidoyer. Mais faites-le comprendre si vous le pouvez au plus grand nombre. Comptez ceux qui s'intéresseront au sort de la presse et vous verrez.
C'est pour cela qu'il vaut mieux que vous passiez de suite aux moyens pratiques de la museler. Je crois que c'est le mot.
C'est le mot, en effet. Pour surplus, ce n'est pas seulement le journaliste que j'entends effréner.
C'est l'imprimerie elle-même.
Vous commencez à user de l'ironie.
Dans un moment, vous allez me l'ôter, puisque sous toutes les formes, vous allez enchaîner la presse.
On ne trouve point d'armes contre un enjouement dont le trait c'est spirituel. Mais vous comprendrez à merveille que ce ne serait pas la peine d'échapper aux attaques du journalisme s'il fallait rester en butte à celle du livre.
Eh bien, commençons par le journalisme.
Mais si je m'avisais de supprimer purement et simplement les journaux, je heurterais très imprudemment la susceptibilité publique, qu'il est toujours dangereux de braver ouvertement. Je vais procéder par une série de dispositions qui paraîtront de simples mesures de prévoyance et de police. Je décrète qu'à l'avenir, aucun journal ne pourra se fonder qu'avec l'autorisation du gouvernement. Voilà déjà le mal arrêté dans son développement. Car vous imaginez sans peine que les journaux qui seront autorisés à l'avenir ne pourront être que des organes dévoués au gouvernement.
Mais puisque vous entrez dans tous ces détails, permettez, l'esprit d'un journal change avec le personnel de sa rédaction. Comment pourrez-vous écarter une rédaction hostile à votre pouvoir ?
L'objection est bien faible, car en fin de compte, je n'autoriserai, si je le veux, la publication d'aucune feuille nouvelle. Mais j'ai d'autres plans, comme vous verrez. Vous me demandez comment je neutraliserai une rédaction hostile. De la façon la plus simple, en vérité. J'ajouterai que l'autorisation du gouvernement est nécessaire à la raison de tout changement opéré dans le personnel des rédacteurs en chef ou gérants du journal.
Mais les anciens journaux, restés ennemis de votre gouvernement et dont la rédaction n'aura pas changé, parleront.
Oh, attendez! J'atteins tous les journaux présents ou futurs par des mesures fiscales qui enrayeront, comme il convient, les entreprises de publicité. Je soumettrai les feuilles politiques à ce que vous appelez aujourd'hui le timbre et le cautionnement. L'industrie de la presse sera bientôt si peu lucrative grâce à l'élévation de ses impôts que l'on ne s'y livrera qu'à bon escient.
Le remède est insuffisant, car les partis politiques ne regardent pas à l'argent.
Soyez tranquille, j'ai de quoi leur fermer la bouche, car voici venir les mesures répressives. Il y a des États en Europe où l'on a déféré au jury la connaissance des délits de presse. Je ne connais pas de mesure plus déplorable que celle-là, car c'est agiter l'opinion à propos de la moindre billevesée du journaliste. Les délits de presse ont un caractère tellement élastique. L'écrivain peut déguiser ses attaques sous des formes si variées et si subtiles qu'il n'est même pas possible de déférer aux tribunaux la connaissance de ses délits. Les tribunaux resteront toujours armés, cela va sans dire, mais l'arme répressive de tous les jours doit être aux mains de l'administration.
Il y aura donc des délits qui ne seront pas justiciables des tribunaux ? Ou plutôt, vous frapperez donc de deux mains, de la main de la justice et de celle de l'administration ?
Le grand mal. Voilà bien la sollicitude pour quelques mauvais et méchants journalistes qui font état de tout attaquer, de tout dénigrer, qui se comportent avec les gouvernements comme ces bandits que les voyageurs rencontrent, les scopettes au poing sur leur route. Ils se mettent constamment hors la loi, quand bien même on les y mettrait un peu.
C'est donc sur eux seuls que vont tomber vos rigueurs ?
Non, je ne puis pas m'engager à cela, car ces gens sont là comme des têtes de l'hydre de Lerne. Quand on en coupe 10, il en repousse 50. C'est principalement aux journaux, en tant qu'entreprise de publicité, que je m'en prendrai. Je retiendrai simplement le langage que voici. J'ai pu vous supprimer tous, je ne l'ai pas fait. Je le puis encore, je vous laisse libre. Mais il va de soi que c'est à une condition, c'est que vous ne viendrez pas embarrasser ma marche et déconsidérer mon pouvoir. Je ne veux pas avoir tous les jours à vous faire des procès, ni avoir sans cesse à commenter la loi pour réprimer vos infractions. Je ne puis pas davantage avoir une armée de censeurs chargés d'examiner la veille ce que vous éditerez le lendemain. Vous avez des plumes, écrivez, mais retenez bien ceci. Je me réserve pour moi-même et pour mes agents le droit de juger quand je serai attaqué. Point de subtilité. Quand vous m'attaquerez, je le sentirai bien et vous le sentirez bien vous-même. Dans ce cas-là, je me ferai justice de mes propres mains, non pas de suite, car je veux y mettre des ménagements. Mais je vous avertirai une fois, deux fois, et à la troisième fois, je vous supprimerai.
Je vois avec étonnement que ce n'est pas précisément le journaliste qui est frappé dans ce système. C'est le journal, dont la ruine entraîne celle des intérêts qui se sont groupés autour de lui.
Qu'ils aillent se grouper ailleurs, on ne fait pas de commerce sur ces choses-là. Mon administration frapperait donc, ainsi que je viens de vous le dire, sans préjudice bien entendu des condamnations prononcées par les tribunaux. Deux condamnations dans l'année entraîneraient de plein droit la suppression du journal. Je ne m'en tiendrai pas là. Je dirais encore aux journaux, dans un décret ou dans une loi à 100 ans, réduisez la plus étroite circonspection en ce qui vous concerne, N'espérez pas agiter l'opinion par des commentaires sur les débats de mes chambres. Je vous en défends le compte-rendu. Je vous défends même le compte-rendu des débats judiciaires en matière de presse. Ne comptez pas davantage impressionner l'esprit public par de prétendues nouvelles venues du dehors. Je punirai les fausses nouvelles de peine corporelle, qu'elles soient publiées de bonne ou de mauvaise foi.
Cela me paraît un peu dur, car enfin, les journaux ne pouvant plus, sans les plus grands périls, se livrer à des appréciations politiques, ne vivront plus guère que par des nouvelles. Or, quand un journal publie une nouvelle, il me paraît bien difficile de lui en imposer la véracité, car le plus souvent, il en pourra répondre d'une manière certaine, et quand il sera moralement sûr de la vérité, la preuve matérielle lui manquera.
Oh, on y regardera deux fois avant de trouver l'opinion, c'est ce qu'il faut.
Mais je vois autre chose. Si l'on ne peut plus vous combattre par les journaux du dedans, on vous combattra par les journaux du dehors. Tous les mécontentements, toutes les haines écriront aux portes de votre royaume. On jettera par-dessus la frontière des journaux et des écrits enflammés.
Oh, vous touchez ici à un point que je compte réglementer de la manière la plus rigoureuse, parce que la presse du dehors est en effet très dangereuse. D'abord, toute introduction ou circulation dans le royaume de journaux ou d'écrits non autorisés sera punie de l'emprisonnement et la peine sera suffisamment sévère pour en ôter l'envie. Ensuite, ceux de mes sujets convaincus d'avoir écrit à l'étranger contre le gouvernement seront à leur retour dans le royaume recherchés et punis. C'est une indignité véritable que d'écrire à l'étranger contre son gouvernement.
Cela dépend. Mais la presse étrangère des États frontières parlera.
Vous croyez? Nous supposons que je règne dans un grand royaume. Les petits États qui borderont ma frontière seront bien tremblants, je vous le jure. Je leur ferai rendre des lois qui poursuivront leurs propres nationaux en cas d'attaque contre mon gouvernement, par la voie de la presse ou autrement.
Je vois que j'ai eu raison de dire, dans l'esprit des lois, que les frontières d'un despote devaient être ravagées. Il faut que la civilisation n'y pénètre pas. Vos sujets, j'en suis sûr, ne connaîtront pas leur histoire. Selon le mot de Benjamin Constant, vous ferez du royaume une île où l'on ignorera ce qui se passe en Europe, et de la capitale une autre île où l'on ignorera ce qui se passe dans les provinces.
Je ne veux pas que mon royaume puisse être agité par les bruits venus du dehors. Comment les nouvelles extérieures arrivent-elles? Par un petit nombre d'agences qui centralisent les renseignements qui leur sont transmis des quatre parties du monde. Eh bien, on doit pouvoir soudoyer ces agences, et dès lors elles ne donneront de nouvelles que sous le contrôle du gouvernement.
Voilà qui est bien. Vous pouvez passer maintenant à la police des livres.
Ceci me préoccupe moins, car dans un temps où le journalisme a pris une si prodigieuse extension, on ne lit presque plus de livres. Je n'entends nullement, toutefois, leur laisser la porte ouverte. En premier lieu, j'obligerai ceux qui voudront exercer la profession d'imprimeur, d'éditeur ou de libraire à se munir d'un brevet, c'est-à-dire d'une autorisation que le gouvernement pourra toujours leur retirer, soit directement, soit par des décisions de justice.
Mais alors, ces industriels seront des espèces de fonctionnaires publics. Les instruments de la pensée deviendront les instruments du pouvoir.
Vous ne vous en plaindrez pas, j'imagine, car les choses étant ainsi de votre temps sous les parlements, il faut conserver les anciens usages quand ils sont bons. Je retournerai aux mesures fiscales. J'étendrai aux livres le timbre qui frappe les journaux, ou plutôt j'imposerai le poids du timbre aux livres qui n'auront pas un certain nombre de pages. Un livre, par exemple, qui n'aura pas 200 pages, 300 pages, ne sera pas un livre, ce ne sera qu'une brochure. Je crois que vous saisissez parfaitement l'avantage de cette combinaison. D'un côté, je raréfie par l'impôt cette nuée de petits écrits qui sont comme des annexes du journalisme, et de l'autre, je force ceux qui veulent échapper au timbre à se jeter dans des compositions longues et dispendieuses qui ne se vendront presque pas ou se liront à peine sous cette forme. Il n'y a plus guère que les pauvres diables aujourd'hui qui ont la conscience de faire des livres. Ils y renonceront. Le fisc découragera la vanité littéraire, et la loi pénale désarmera l'imprimerie elle-même, car je rends l'éditeur et l'imprimeur responsables criminellement de ce que les livres renferment. Il faut que, s'il est des écrivains assez osés pour écrire des livres, ouvrages contre le gouvernement, ils ne puissent trouver personne pour les éditer. Les effets de cette intimidation salutaire rétabliront indirectement une censure que le gouvernement ne pourrait exercer lui-même à cause du discrédit dans lequel cette mesure préventive est fondée. Avant de donner le jour à des ouvrages nouveaux, les imprimeurs, les éditeurs consulteront. Ils viendront s'informer, ils produiront les livres dont on leur demande l'impression. Et de cette manière, le gouvernement sera toujours informé utilement des publications qui se préparent contre lui. Il en fera opérer la saisie préalable quand il le jugera à propos et en déférera les auteurs aux tribunaux.
Vous m'aviez dit que vous ne toucheriez pas au droit civil. Vous ne paraissez pas vous douter que c'est la liberté de l'industrie que vous venez de frapper par cette législation. Le droit de propriété s'y trouve lui-même engagé. Il y passera à son tour.
Ce sont des mots.
Alors vous en avez, je pense, fini avec la presse.
Oh, que non pas.
Que reste-t-il donc?
L'autre moitié de la tâche.